Bonjour, bien-aimé. Bienvenue à tout un chacun. Je vous invite à vous mettre debout, nous allons commencer notre moment. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as encore gardé le souffle de vie, tu nous as préservés. Tu as permis que nous puissions venir jusqu'ici pour te louer, pour te prier, pour t'adorer. Reçois toute la louange, toute l'adoration qui te sont dues. Merci encore de bénir ces instants que nous passons. Nous voulons vraiment t'offrir toute notre louange, toute notre adoration. Que tu puisses vraiment les agréer comme un parfum de bonne odeur. Merci de nous disposer, de nous sanctifier, afin que tu puisses agréer tout ce que nous voulons t'offrir. Merci de bénir ces instants que nous passons en ta compagnie. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Il y avait deux disciples, en fait, qui allaient en direction d'un village nommé Emmaüs. Et à ce moment-là, ils ont rencontré Jésus. Mais quand ils l'ont rencontré, ils n'ont pas reconnu que c'était Jésus. Et en fait, ils se sont dit, dans Luc, verset 24, verset 32, chapitre 24, verset 32, ils se sont dit ceci. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? On peut se demander en ce matin, est-ce que notre cœur brûlait de joie? Des fois, notre cœur brûle pour une situation, pour une occasion, pour aller au concert, on achète notre billet longtemps avant, on est impatient, on brûle. Est-ce que notre cœur brûle quand nous venons à l'église, quand nous venons en présence de Dieu, quand nous venons pour écouter la parole de Dieu, pour chanter? Est-ce que notre cœur brûle en dedans de nous? Nous voulons vraiment ressentir ce que Dieu a mis dans notre cœur. Dans quelques instants, nous allons célébrer la Sainte Cène qui symbolise Jésus-Christ qui est mort pour chacun de nous. Dieu, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que nous puissions être sauvés. Jésus, il est digne. Est-ce que notre cœur brûle au-dedans de nous en pensant à cela? Est-ce que nous sommes conscients de cela? Nous allons chanter ce premier chant. Jésus, tu es digne.
À celui qui est nom de Dieu, la louange et l'honneur à celui qui est, à l'agneau de Dieu, le pouvoir et la gloire.
Je vais demander juste avant à notre sœur Julie, est-ce que tu veux prier pour les enfants, s'il te plaît ? Amen. Les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Depuis plusieurs dimanches, en fait, lors des prédications, nous lisons dans le livre de Daniel. Et en fait, nous avons eu l'occasion de voir que Daniel et ses amis, tout en étant déportés dans un pays idolâtre, ils sont restés intègres et fidèles à la parole de Dieu. Ils n'ont pas voulu se souiller, ils n'ont pas voulu se compromettre. Ils ont gardé les enseignements que la parole de Dieu leur donnait. Et nous voyons que dans Apocalypse 2, au verset 4, Dieu reproche ceci à l'église d'Éphèse. Il leur dit ceci: « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Pour ceux qui ont accepté Christ, nous pouvons nous rappeler comment est-ce que nous avons accepté Christ. Comment nous étions quand nous aussi nous avons accepté Christ? Comment nous lisions la parole de Dieu? Pour ma part, on se souvient qu'on lisait la parole de Dieu, on ne comptait pas nos heures, on lisait, on étudiait, on apprenait, on priait. Je me souviens que même des fois, au travail, au milieu des collègues, ça m'arrivait de m'agenouiller, de prier, de lire la Bible, de témoigner, d'inviter tout le monde à l'église, tout le monde, musulmans, tout le monde. J'invitais tout le monde. Ça, c'est parce qu'on avait la ferveur. Et cette ferveur, Dieu nous demande de la garder. Comme Dieu reproche à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu veut aussi que nous gardions ce premier amour. Prenons quelques instants afin que Dieu ne nous reproche pas plus tard. Est-ce que tu as perdu ton premier amour? Prenons quelques instants chacun de nous, histoire de nous examiner, voir où nous en sommes par rapport à notre premier amour. Est-ce que nous passons toujours du temps avec Jésus comme cet ami intime que nous connaissons? Est-ce que nous prenons toujours du temps à lire la parole de Dieu, à étudier, à chercher des versets, à chercher à comprendre le sens? Prenons quelques instants dans le silence pour nous examiner nous-mêmes. Et ce silence sera interrompu après par la musique. Examinons-nous.
Seigneur, tu connais tout de moi. Je suis si pauvre devant toi. Je veux me souvenir de ces moments sublimes où je t'aimais plus qu'un ami intime. Seigneur, tu connais tout de moi. Je suis si pauvre devant toi. Je veux me souvenir de ces moments sublimes où je t'aimais plus qu'un ami intime.
Sans toi, la vie n'a pas de sens. J'ai trahi ta confiance.
Pardon pour la distance creusée par l'habitude. Par ta grâce, je veux changer d'attitude. Mon premier amour, mon premier. Ton appel, je veux tout à nouveau vivre de ton amour, retrouver la passion des premiers jours, mon premier amour, mon premier. J'ai trahi ta confiance. Pardon pour la distance.
creusé par l'habitude. Par ta grâce, je veux changer d'attitude. Je veux, Seigneur, rester fidèle et répondre à ton appel. Je veux tout à nouveau vivre de ton amour, retrouver la passion des premiers jours. Mon premier amour,
Jésus.
Mon premier amour, mon premier amour, mon premier. Mon premier amour, mon premier amour, mon premier amour, mon premier.
Daniel et ses amis, en fait, ils sont restés fidèles, mais comme nous avons pu voir dans les différents textes, cela n'a pas empêché qu'ils aient eu certains problèmes, on va dire. Mais dans tous ces problèmes qu'ils avaient, Dieu était toujours avec eux. Dieu les a toujours préservés. Quand on a Dieu avec nous, Dieu nous préserve. On perçoit les problèmes différemment. Dieu n'a jamais dit, en fait, qu'on vivra une vie sans embûches, que notre vie sera rose, que notre vie sera parsemée de roses. Il nous a seulement demandé de faire ce bout de chemin avec lui. Et il sera avec nous. Il nous a demandé de le suivre. Et il nous protégera. Il sera avec nous. Les choses, on les percevra différemment. Même si nous avons des problèmes, Dieu est avec nous. Et on les perçoit totalement différemment. Il n'a pas dit.
Que tu sombrerais, il a dit, allons.
pas, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord.
Il n'a pas dit que tu coulerais,
il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord.
Si la mer se déchaîne, si le vent, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort.
Amen. Nous savons que Daniel, il priait 3 fois par jour. Nous sommes aussi invités à prier 3 fois, 4 fois, 15 fois par jour, s'il le faut. Et dans le psaume 119, verset 164, David dira, « 7 fois le jour, je te célèbre à cause de ta justice. » David avait compris qu'il y avait une puissance à travers la louange. Il le savait. Paul et Silas aussi, quand ils étaient emprisonnés, c'est quand ils ont commencé à louer que la délivrance est arrivée. La délivrance, elle n'arrive pas quand on est dans la lamentation, quand on est dans les plaintes. La délivrance, elle arrive quand on loue Dieu. Bien souvent, on se dit « Ah non, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas louer, je ne peux pas prier. » Mais c'est justement le contraire. Quand on est dans les problèmes, c'est à ce moment-là qu'il faut louer, qu'il faut prier davantage. David, comme il avait compris que la puissance, qu'il y avait une puissance derrière la louange, nous vous invitons aussi à chanter « c'est si bon de louer son nom. »
C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, la 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 la. La 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 la. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. Chaque jour infiniment, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité. chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom,
de chanter
des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la.
Amen. Nous allons juste avoir un autre moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Donc, nous voulons juste entendre, nous désirons entendre sa voix, la voix de Dieu. Donc, Dieu qui va nous parler encore à travers son serviteur. Nous voulons chanter le 425. Je désire entendre ta voix. Nous allons chanter ce chant comme une prière.
Et ton amour. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Toi seul connais tous les secrets. Tu viens pour nous les révéler. Je désire entendre
tes pensées, de ta puissance. Tu lui donnes les paroles que tu as mises dans sa bouche. Tu puisses disposer nos cœurs à écouter ta parole, à recevoir ta parole, à la garder, à la mettre en pratique. Merci de nous bénir au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous. Bonjour bien-aimé. Je désire entendre ta parole, le chant a dit. Comment allez-vous? Ah, grâce de Dieu. Moi, je dirais, ça peut aller. Mais Dieu est grand. Prions. Seigneur, nous te bénissons encore une fois. Et nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, parce que ton esprit a été là ce matin, durant ce moment de louange. Tu nous as conduits, Seigneur, à te louer et à t'adorer avec les bien-aimés. Maintenant, Seigneur, c'est l'heure d'écouter ta parole. La parole que tu as mise sur mon cœur, tu m'as utilisé pour te servir aujourd'hui. Je te demande simplement, Seigneur, d'être avec moi, de me donner les mots qu'il faut, les mots justes, afin de communiquer ta parole à ton peuple en ce matin. Mais aussi que ton peuple puisse avoir les oreilles, un bon entendement, Seigneur, pour entendre ta parole, comme Eric l'a dit dans sa prière, pour la mettre en pratique aussi. Que vraiment, Seigneur, tu puisses chasser tous ceux qui pourraient distraire ton peuple en ce matin pour écouter ta parole. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur, et bénis ta parole encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est comme si c'était une continuité de ce qui a été dit par Eric aujourd'hui. Il a parlé de Daniel, qui, avec ses amis, n'ont pas renié Dieu. D'ailleurs, on l'a entendu il y a deux dimanches de cela aussi. Enfin, ça fait deux dimanches qu'on l'entend. Il a aussi parlé d'un verset d'Apocalypse qui dit, en parlant de l'église d'Éphèse, « Je connais tout ce que tu as fait, mais tu as abandonné ton premier amour. » Que nous retrouvons, un verset que nous retrouvons dans ce message aussi. Et déjà même mercredi, le pasteur a parlé de la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Verset aussi que nous allons retrouver dans ce message. Éphésiens 5, 14 nous dit, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Donc le message d'aujourd'hui, c'est réveille-toi, toi qui dors. Jésus, dans Luc 18, 8, il a posé une question. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Bien entendu, quand Jésus viendra, il y aura de la foi sur la terre. Mais quelle foi qu'il y aura? Est-ce qu'il y aura la foi comme cette servante du Seigneur qui n'avait rien et qui a donné tout ce qu'elle possédait à Élie? Nous voyons que certains croyants se sont détournés de la parole de Dieu. Ils sont venus, ils ont entendu, ils sont restés à l'église quelque temps, et puis ils se sont complètement détournés de la parole de Dieu. C'est vrai que suivre Jésus, c'est pas aussi simple qu'on veut le croire. D'ailleurs, Éric l'a encore dit pendant qu'il faisait la louange dans sa présidence, il a dit, Jésus n'a jamais dit que tout allait être simple. D'ailleurs, il a dit, celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Prendre sa croix, qu'il se charge de sa croix, prendre sa croix, ça veut dire qu'il y aura des événements, des tribulations, des difficultés. Parce que lui-même, il a subi toutes ces difficultés. Il a subi la souffrance. Il a été jusqu'à la mort, mais il a pris sa croix. Et il nous dit que ce sera pareil pour nous. Charge-toi de ta croix. Et la marche chrétienne devient compliquée pour certains croyants, qu'ils abandonnent la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne veulent pas abandonner certaines habitudes, certaines choses qui les retiennent dans ce monde. Et ils abandonnent la foi. Il y a d'autres croyants qui ont tout simplement rétrogradé. Ils sont là, mais ils ont rétrogradé. Qui viennent de temps en temps à l'église, qui viennent de temps en temps au culte, aux réunions de prière, mais qui sont préoccupés par d'autres choses et ils rétrogradent au lieu d'avancer. Dans la semaine, j'ai rencontré un chrétien, un frère, que je n'avais pas vu depuis bien longtemps. Tu lui posais la question, qu'est-ce que tu deviens, etc. Il m'a raconté qu'est-ce qu'il devient, que ça allait bien pour lui. Et je lui dis, dans quelle église il va prier? Et sa réponse m'a un peu surpris. Il m'a dit, je vais dans telle église, mais de temps en temps, sa phrase était, quand j'y vais, c'est dans cette église que je vais. Ça veut dire qu'il ne va pas tout le temps à l'église. Donc, c'est un frère qui commence à rétrograder. Il y a d'autres frères, d'autres chrétiens, qui sont encore dans l'église, mais qui se détournent partiellement encore de la parole de Dieu. Ils sont endormis. Et c'est pour ça que le titre du message, c'est « Réveille-toi ». Ils sont là, mais ils sont endormis. C'est pour eux que Dieu nous donne un avertissement. Et si ça peut nous arriver d'ailleurs, hein, que Dieu nous donne cet avertissement. Je connais tes œuvres, le Seigneur a dit. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est ce que le Seigneur nous avertit. Soit on est tiède, soit on est bouillant. Soit on est froid même, Mais le Seigneur veut qu'on soit bouillant. Beaucoup de chrétiens se laissent endormir par Satan avec toutes les distractions, toutes ces distractions actuelles. Vous connaissez, il y a toutes sortes de distractions, nous les connaissons, hein, toutes. Il y a la télévision, avec maintenant tous les programmes en streaming, toutes les vidéos à la demande. Avant, il y avait la télé, tu avais un programme, si ça t'intéressait, tu restais, si ça ne t'intéressait pas, ben, tu partais. Ben, maintenant, avec toutes ces vidéos à la demande, ben, c'est comme si à la demande, tu viens quand tu veux. Et tu passes du temps devant la télévision. Si c'est une série que tu aimes, mais tu enfiles plein d'épisodes à la suite et tu perds du temps. Il y a aussi les jeux, hein, pour les jeunes qui passent beaucoup de temps à jouer. Et il n'y a pas que les jeunes qui jouent. Il y a aussi beaucoup d'adultes qui passent leur temps à jouer. Et il y a aussi ce phénomène, le portable, que même nous, les adultes, on ne lâche pas. Parfois, on l'oublie et on fait demi-tour pour le récupérer. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir des moments de détente, hein, regarder la télévision, regarder des séries, les épisodes à la suite. Au contraire, il faut qu'on ait des moments de distraction, il faut qu'on lâche prise un peu. Parce qu'on travaille beaucoup, nous sommes sous tension. D'ailleurs, notre pays même est sous tension actuellement. C'est vrai que nous avons besoin de nous distraire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre ce temps qu'on doit passer avec Dieu dans la distraction non plus. Vous savez, en parlant de télévision, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, dans les années 70, il y a des pasteurs qui recommandaient aux croyants de ne pas regarder la télévision parce qu'il y avait le diable. En fait, la télévision, c'était le diable. C'était comme si c'était interdit de regarder la télévision parce que tu étais endiablé quand tu regardais la télévision. Maintenant, combien de pasteurs qui a une télévision chez lui? Pasteur, tu as une télévision chez toi. Et tu n'es pas endiablé pour autant. C'est le fait que ces moments prennent le dessus sur notre relation avec Dieu, c'est ça qui est grave. Et on ne se rend pas compte, on se laisse endormir jusqu'au moment où on commence à ne plus prier, à ne plus lire la Bible. Et venir à l'église, pour nous, ça devient un calvaire. Ou sinon, on regarde juste rapidement la Bible, histoire de se donner bonne conscience. On ouvre la Bible, on regarde, on feuillette, on lit peut-être un chapitre, et puis on referme. Là, tu dis, j'ai lu la Bible. Et puis nous cherchons toutes sortes d'excuses pour nous dédouaner. Jacques nous dit, dans sa parole, chapitre 1, verset 22, que nous nous trompons nous-mêmes par de vains raisonnements. Et il dit bien, nous nous trompons. Donc on ne trompe pas Dieu. C'est nous-mêmes que nous nous trompons quand nous agissons de cette manière. Mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est ce que dit exactement le verset. Par contre, il ne faut pas non plus tout mettre sur le compte des réseaux sociaux, de la télévision, des jeux, etc. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous sommes parfois paresseux. Proverbe 6:9 nous dit: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Donc ça veut dire que nous devenons paresseux. Et quand on lit ce proverbe, il nous invite à nous lever de notre sommeil, parce que nous sommes endormis. Et c'est vrai que la paresse nous presse en ce moment. Avant, pour les plus anciens, hein, je parle, hein, il y avait la télévision, et quand tu voulais changer de chaîne, tu te levais pour appuyer sur un bouton. Maintenant, il y a la télécommande, tu n'as pas besoin de te lever, tu appuies et tu changes la chaîne. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le progrès, hein. Au contraire, moi je préfère avoir la télécommande que de me lever. Mais c'est pour vous dire que tous ces progrès nous rendent paresseux aussi. Tu voulais acheter ton pain, tu fais un repas par exemple, tu as oublié un ingrédient. Tu veux aller acheter l'ingrédient, avant, tu allais à pied parce que la boutique est à 100 mètres, 200 mètres. Maintenant, c'est la voiture. Tu prends la voiture et tu vas faire tes courses. Et tu te dis dans ta tête, c'est pour aller plus vite. Mais tu sais très bien que ce n'est pas pour aller plus vite, c'est de la paresse. Et quand on agit ainsi, cela entraîne une régression spirituelle. Notre âme n'est plus alimentée comme il devait l'être. Et il y a toujours cette image qui me revient, c'est nous ne sommes plus comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui puise avec sa racine, qui va dans l'eau puiser, et cet arbre est bien portant. Son feuillage ne flétrit point. Mais au contraire, nous, on flétrit. Et quand on agit comme ça, nous n'avons plus d'intimité avec Dieu non plus. Alors que l'apôtre Paul nous demande d'être rempli de l'Esprit. En nous entretenant par des psaumes, des hymnes, par des cantiques. Mais quand nous agissons comme ça, ça veut dire que le temps que nous passons à faire autre chose, eh bien, nous ne nous entretenons pas. Et si nous ne réagissons pas rapidement, nous perdrons au fur et à mesure notre amour pour Dieu. Et c'est ce qui se passe avec tous les bien-aimés croyants qui soit ont rétrogradé, soit ont abandonné la foi. Ils ont perdu leur amour. Les choses de Dieu ne les intéressent plus. Avant, ils aimaient entendre parler de Dieu et parler de Dieu. Maintenant, si on leur parle de Dieu, ça devient quelque chose de compliqué. Ils fuient. C'est vrai que quand je dis ça, c'est un cas extrême, hein? Mais il faut comprendre que cela guette tout enfant de Dieu. Quand on se laisse endormir, ça nous guette. Moi, si je me laisse endormir, c'est fini pour moi aussi. Que celui qui est debout, la parole de Dieu dit, prenne garde de ne tomber. Avec le groupe des hommes, nous utilisons un livre de Patrick Morley, « L'homme dans le miroir ». Et dans ce livre, il parle il prend une image d'une pile. Je ne vais pas dire exactement ce qu'il dit dans le livre, mais je paraphrase ce qu'il dit. Il prend l'image d'une pile et il dit, quand vous avez une pile rechargeable, je parle bien de pile rechargeable, quand vous prenez la pile, vous la rechargez, elle est à fond. Et cette pile, elle remplit la fonction qu'on lui demande. C'est-à-dire que si c'est pour alimenter ton transistor pour écouter la radio, la pile est chargée, elle va alimenter ton transistor. Mais elle va se décharger au fur et à mesure. Et il dit, c'est de même pour un chrétien. Quand on rencontre le Seigneur, on est chargé à fond. Et au fur et à mesure, notre batterie se décharge. Et si on ne recharge pas la batterie, on sera déconnecté en fait de notre source qui est le Seigneur Jésus. Parce que c'est en lui que nous puisons tout. Le verset qu'Éric a cité tout à l'heure, Apocalypse 2:4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire que comme cette pile, on était chargé à fond et on ne recharge pas. C'est-à-dire recharger, c'est être en communion avec Dieu, lire sa parole, être vraiment avec le Seigneur. Si on ne se recharge pas, bien on abandonne la foi. À notre conversion, nous étions tous bien chargés, comme je l'ai dit. Et au fur et à mesure, notre batterie s'est déchargée. Au point de devenir tiède. Et même parfois froid. Nous sommes donc endormis. Donc, il faut un réveil. Il faut se réveiller. Réveil spirituel. 2 Corinthiens 2:11 nous dit, afin de ne pas donner à Satan l'avantage sur nous. Quand on se laisse endormir, quand on est endormi, Satan prend l'avantage sur nous. Et la fin du verset dit, nous n'ignorons pas ses intentions. Nous savons donc tous les intentions de Satan vis-à-vis de toute créature de Dieu. Et surtout, envers les enfants de Dieu. Ce réveil passe par un effort de la part de chacun, de la part de chaque chrétien. Il y aura des difficultés, c'est sûr. Il y aura des faux pas, sûrement. Mais si on ne fait pas l'effort, les difficultés, les faux pas reviendront toujours. Ce réveil passe par le retour à la parole de Dieu, à la méditer. La parole de Dieu nous dit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ce que nous devons faire. Ce réveil passe aussi par la repentance. Parce que quand on commence à abandonner Dieu, c'est un péché. Il faut se repentir, revenir à Dieu et lui demander pardon. Et surtout lui demander la force de pouvoir revenir et de lire sa parole, d'étudier sa parole. Et lui demander d'enlever cet esprit d'endormissement, d'enlever cet esprit qui nous endort. Parce que cet esprit ne vient pas de Dieu. Il faut aussi chercher la compagnie des croyants. Parce que pour cultiver la communion fraternelle, c'est ce que le Seigneur nous demande aussi. Il faut étudier la Bible. Et il y a aussi les cellules de maison que nous abandonnons. Et c'est vrai que c'est un moyen aussi, les cellules de maison, c'est un moyen où le chrétien peut rester éveillé pour partager la parole avec les autres croyants. C'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité d'avoir une cellule à proximité. Mais quand nous avons une cellule à proximité, je pense qu'il faut l'intégrer. Parce que c'est un plus. Et c'est ce que faisaient les premiers croyants. Ils se réunissaient dans les cellules de maison. On appelait ça des églises, mais c'était avant tout les cellules de maison. Il y a aussi ce que nous allons faire tout à l'heure, les études bibliques. Le pasteur disait samedi dernier, c'est vrai que les premiers jours, les premiers mois même, il y a du monde dans les études bibliques. Et on ne parle pas que de notre église, hein, c'est partout pareil. Et au fur et à mesure, et on retrouve deux, trois personnes qui assistent aux études bibliques. Normalement, on devait venir aux études bibliques pour s'enrichir aussi. Et cela nous permet de rester éveillés. Il y a aussi le groupe des hommes et le groupe des femmes. Là aussi, ça permet que nous soyons toujours éveillé. Il faut qu'on trouve la motivation pour y participer. Tout cela, tous ces exemples que je viens de vous donner, nous aident à rester vraiment éveillés et de ne pas nous laisser endormir par Satan. Plus le chrétien fréquente des croyants comme lui, plus il sera encouragé dans sa foi et plus il aura du zèle pour servir le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne doit pas fréquenter un non-croyant. Je n'ai pas dit ça. Au contraire, il faut qu'il fréquente les non-croyants pour pouvoir l'amener à entendre la parole de Dieu et pour que ce non-croyant puisse un jour venir au Seigneur. Mais c'est vrai que quand on fréquente que des non-croyants, bien on prend leurs mauvaises habitudes. Quand, avant de rentrer dans la terre promise, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de ne pas se mettre avec les enfants, les femmes, que les hommes et les femmes, enfants d'Israël, ne doivent pas être avec les hommes et les femmes du pays. Ils savaient très bien que s'ils se mettaient avec les femmes et les hommes, ils allaient détourner de la parole de Dieu. Donc, fréquenter que des non-croyants nous éloigne de la parole de Dieu. On voit que dans la Genèse même, Isaac n'a pas voulu que Jacob prenne une femme du pays. Il a demandé qu'on aille chercher une femme pour son fils dans son pays. Un moyen aussi de ne pas se laisser endormir, c'est la persévérance dans la prière. C'est vrai que la prière, c'est un combat pour tout chrétien. Tout chrétien, c'est un combat de prier, de participer aux réunions de prière et parfois même de prier à la maison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche toujours des excuses pour ne pas venir aux réunions de prière. Je suis fatigué, j'ai telle chose à faire, etc., etc. On se souvient que dans la Bible, il y a une histoire où Jésus raconte. Il est parti prier, il était dans la souffrance. Et il est parti prier avec deux disciples. Et Jésus leur a demandé de veiller et de prier avec lui. Il est parti, il est revenu, il les a trouvés endormis. Il est reparti prier une deuxième fois, il est revenu, il les a trouvés encore endormis. Et il leur a simplement dit, vous ne pouvez pas veiller et prier. Et la troisième fois, il est revenu, il dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Et il leur dit, voici, l'heure est proche. L'heure est proche, il ne faut pas qu'on se laisse endormir. Il faut, bien aimé, qu'on se réveille, qu'on prie. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Selon qu'il est dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, verset 11. Il y en a qui ont cru, ça fait 20 ans, 30 ans. Il y a d'autres qui ont cru, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais le salut, en ce moment même où nous parlons, le salut est plus proche que au moment où nous avons cru. La parole de Dieu nous déclare que nous sommes des sentinelles. Mais une sentinelle, je ne sais pas si vous avez déjà vu les sentinelles, à l'armée par exemple, ou même quand on regardait les westerns quand on était plus jeune. Il y avait toujours une sentinelle perchée qui surveillait. Mais si cette sentinelle dort, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il y aura danger. On risque de se faire tuer, d'être envahi. Eh bien, c'est ce qui va nous arriver si nous sommes sentinelles et nous dormons. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Jérémie 6, verset 17. Nous devons donc rester bien éveillés en tant que sentinelles. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Si nous sommes la lumière du monde et que nous dormons, comment nous allons éclairer les gens? Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Si nous ne sommes pas éclairés par Jésus, mais nous ne pourrons pas éclairer les autres non plus. Ce réveil passe aussi par le service dans l'église. Et c'est vrai que dans toutes les églises, il y a des difficultés pour servir. Nous, les croyants, nous sommes vraiment endormis dans ce domaine. Il ne faut pas que nous soyons des spectateurs, mais il faut que nous soyons tous des acteurs au service de Dieu. Dans les églises, dans nos églises, il y a plein de moyens de servir le Seigneur. Et souvent, nous voulons servir le Seigneur en jouant de la musique, c'est prisé comme si c'était que ça, le service dans l'église. Le service dans l'église, c'est beaucoup de choses. Il faut savoir donner plus que de recevoir, disait Jésus. Et nous, dans nos églises, nous aimons recevoir plus que de donner un peu de temps. C'est vrai que dans notre église, hein, quand je vois le calendrier au fond, il y a quelque temps de cela, le calendrier était rempli sur un trimestre, voire plus. Et je parle du calendrier du ménage. Et quand on regarde le calendrier, chaque dimanche, il n'y a personne. C'est vrai que ce que je dis là, c'était vraiment un combat. Je vous le dis franchement, c'était un combat parce que je ne voulais pas dire ça dans le message. Je me suis dit à moi-même, si je dis ça, ça va être mal interprété dans l'église. Mais le Seigneur m'a dit, tu dis. Et j'ai résisté jusqu'à en venant ici. Là. Je me suis dit, je ne dirai pas ça. Mais Dieu dit, tu dis. Alors je le dis. Je ne veux pas que ce soit mal interprété, ça ne vient pas de moi, je le dis encore une fois. Mais c'est le Seigneur qui dit ça. Nous ne servons pas le Seigneur au niveau du ménage. Et même quand nous servons le Seigneur au niveau du ménage, c'est toujours les mêmes personnes. Et vous savez quoi? Pendant que nous sommes endormis, nous ne servons pas notre Seigneur, il y en a un qui se frotte les mains. Et il est bien content. Regardez-les. Ils se disent serviteurs de Dieu. Ils sont incapables de faire le ménage dans leur église. Et quand je dis ça, je m'intègre dedans. Les parents de Jésus sont partis avec lui quand il avait 12 ans au temple. Et à leur retour, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Ils sont partis le chercher. Et quand ils sont partis, ils l'ont trouvé dans le temple. Voilà qu'on te cherche. Nous sommes retournés et on te trouve là. Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Est-ce que nous nous occupons des affaires de notre Père, de Dieu que nous appelons Père? Jésus connaissait la priorité. Est-ce que nous connaissons la priorité? Je vais terminer. Un verset qui est revenu dimanche dernier encore. 3 Jean 1. J'espère que tu prospères comme ton âme prospère. Il faut qu'on prospère, bien-aimé. Il faut qu'on se réveille. Et je veux conclure par toujours une citation de Patrick Morley dans le livre que nous étudions avec les hommes. N'est-il pas temps pour vous de cesser de vivre machinalement et d'examiner sérieusement la question de votre destinée éternelle et de votre dessein terrestre? C'est une question. Donc, il est temps pour vous de cesser de vivre machinalement et d'examiner sérieusement la question de votre destinée éternelle et de votre dessein terrestre. La vie examinée vaut la peine d'être vécue. Et après, il dit, prenez la décision de laisser Christ explorer chaque recoin de votre âme. Il veut vous donner la force de sortir du moule de ce monde et de mener une authentique vie chrétienne. Et il termine, il dit, cela exige de notre part un effort quotidien. Cela exige de notre part un effort quotidien. Amen.
Merci Eric pour ce message. Sans plus tarder, je vais appeler Erwan et Aurélien pour les offrandes, s'il plaît. J'invite le groupe de l'Orange. Comme l'a dit Eric, il peut y avoir pas mal de distractions, des distractions qui nous prennent beaucoup de temps, plus de temps que ce que nous devrions faire. Le temps que nous devrions passer avec la parole de Dieu dans l'étude, la méditation. Ce temps nous est volé. Pour certains, on peut passer beaucoup de temps derrière la télé. Et il arrive un moment, c'est plus nous qui regardons la télé, c'est la télé qui nous regarde. Donc, que nous puissions vraiment mettre ce temps à part pour Dieu, que nous puissions vraiment étudier la parole de Dieu, que nous puissions vraiment revenir. Nous allons à travers ce chant, pour ceux qui le connaissent, nous allons demander à Dieu de nous sonder, de voir où nous en sommes, de voir notre cœur. Et si nous ne sommes pas sur la bonne voie, qu'il puisse nous mettre sur la voie droite. Des fois, quand on glisse, on ne sait pas forcément qu'on glisse. Quand David glissait, il ne le savait pas. Il a fallu qu'on lui dise. Alors nous allons à travers ce chant demander à Dieu de nous sonder, de voir où nous en sommes. Et si nous ne sommes pas sur la voie droite, qu'il nous conduise. Donc je vois que ce chant n'est pas connu de tous, donc ceux qui connaissent, vous pouvez chanter. C'est ce que nous demandons à Dieu pour chacun de nous dans notre vie. Erwan, si tu veux prier pour les offrandes, s'il te plaît. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre frère Emile.
Je vous invite à vous mettre debout. Prions. Le Seigneur est bon. Il est un abri. Au jour de la détresse, il protège, prend soin de ceux qui se confient en lui, qui cherchent en lui leur refuge. Le Seigneur rend la vue aux aveugles, le Seigneur remet debout ceux qui faiblissent, le Seigneur aime les fidèles. À cause de la vérité, la parole de Dieu, l'enseignement reçu, la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est le moment d'accueillir ceux qui nous visitent, si c'est pour la première fois que vous êtes là. Simplement, si vous le voulez,